BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Deuxième heure de BFM Patrimoine, on file tout de suite sur les marchés pour prendre le pouls de la séance en cours. Sarah Thirion nous attend chez Tipeee iCap. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Bon, ben, ça va pas mal et on commence à rêver des 6000 ?
Oui, on commence à en rêver avec des marchés qui, en revanche, vivent toujours de l'espoir du soutien monétaire. On l'avait constaté la semaine dernière avec la bonne réaction des marchés financiers suite à la décision de la Banque d'Angleterre de racheter des obligations. Et puis hier, on a finalement eu l'espoir, et qui se prolonge aujourd'hui, d'une normalisation moins marquée, appuyée de la part de la Fed, compte tenu effectivement de l'ISM qui a été publié hier, avec une progression qui a été la plus faible de près de 2 ans et demi. Ce qui laisse supposer à certains opérateurs que finalement l'intervention de la Fed finit par faire produire son effet effectivement sur l'économie et que donc elle aura peut-être moins besoin de normaliser aussi fort, aussi vite que prévu. Et d'ailleurs, en plus, on a la Banque d'Australie ce matin qui a surpris avec un relèvement de taux de 25 bips contre 50 attendus. Donc, les marchés se raccrochent toujours à cet espoir d'un soutien des banques centrales. On a du mal, effectivement, à se défaire de cette emprise. Et cet espoir, en fait, a entraîné un repli du dollar américain, puisqu'on a des rendements des bons du Trésor américain qui ont marqué une pause. Et bien évidemment, Henri de Cross, ça soulage évidemment les actifs à risque. Ça soulage l'inflation embarquée en Europe produite par un dollar fort. Et ça se traduit du coup par une progression de l'Eurostox de quasiment 2,6% ce matin, du CAC de 2,8%. Et ça se traduit aussi dans les valeurs, puisque les valeurs de croissance sont à nouveau recherchées et entourées. Quelques valeurs cycliques profitent aussi du relèvement de guidance de SICA. Mais bien sûr, le juge de paix, ça va être le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié vendredi.
Bon, effectivement, ça c'est programmé pour la fin de semaine, même s'il y aura les traditionnelles enquêtes avant les non-farm payrolls, comme on dit en bon français dans le texte. Un mot quand même d'un dossier, M6.
M6, qui malheureusement chute violemment ce matin, 9% de baisse je crois, avec RTL qui a finalement renoncé à céder sa participation dans M6. Donc il y avait eu l'échec du projet de fusion avec TF1. Le groupe a reçu des propositions. Le problème, c'est que le timing est un peu trop serré. Je vous rappelle que dans quelques mois, dans à peine 5 mois, en mars 2023, la M6 doit renouveler sa fréquence TNT. Et on a bien vu avec le projet de fusion de TF1 avec TF1 que les process antitrust peuvent être assez longs et en tout cas seraient trop longs pour entamer probablement une discussion avec un potentiel acquéreur de cette participation avant le renouvellement de cette fréquence qui, selon la loi, induit que pendant 5 ans après l'obtention de l'autorisation de l'ARCOM, plus aucune opération ne puisse être possible sur le capital du groupe. Donc évidemment, ce matin, la prime spéculative autour d'M6 s'effondre puisqu'il n'y a ni fusion avec M6, ni possibilité de rapprochement immédiat à l'international. Et donc, on se retrouve sur le schéma, retour à la case départ et le schéma initial d'une télévision commerciale qui reste sous le sceau de la concurrence des plateformes SVOD sur le front de l'audience, de la concurrence de la communication digitale sur le front des recettes publicitaires, dans un environnement évidemment économique qui ne va pas être très favorable pour les dépenses des annonceurs en marketing et publicité, puisqu'on a à la fois un ralentissement de l'économie et une perte de pouvoir d'achat. Sauf qu'on le sait, pour les télévisions commerciales, les recettes publicitaires sont prépondérantes dans le mix, à la fois en chiffre d'affaires et en résultat opérationnel courant. Donc il reste des possibilités, évidemment que le groupe essaie d'acquérir du contenu, ce qui est quand même la marge de différenciation énorme à avoir aujourd'hui pour conquérir de l'audience, soit évidemment d'imaginer, comme l'évoque Nicolas de Taverneau, de possibles partenariats dans l'OTT, ou éventuellement, selon certains analystes, la piste d'une fusion avec Énergie, ce qui permet au titre Énergie de rebondir de près de 2% ce matin, mais ce qui serait à nouveau à la fois un move défensif et à la fois un move dans la diffusion. Or, ce qu'on veut, c'est du contenu.
Merci mille fois, voilà. Sarah Thirion, Tipeee iCap, qui nous accompagnait sur ce marché qui progresse de 3,05% maintenant, 5 970 points. Et nous, on retrouve Stéphanie Collo pour l'Info Éco.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est le changement de gouvernance à venir chez Atos. Le président Bertrand Meunier est la cible d'actionnaires minoritaires qui réclament son départ. Selon nos informations, il quittera son poste l'été prochain quand la scission du groupe sera finalisée et que la branche cyber sera logée dans une nouvelle filiale, Evidian. Son refus d'étudier l'offre de rachat de cette activité par OnePoint a été très mal vu. Une offre qui est d'ailleurs toujours sur la table. Son président, David Layani, a tenu à lancer un appel aux actionnaires d'Atos. Ce matin, il était l'invité de Good Morning Business.
C'est un projet qui dépasse les uns et les autres, ma propre personne. Il s'agit de 110 000 salariés. OnePoint est une entreprise de 3 000 salariés qui s'est imposée comme un leader de la transformation digitale. On a ce champion à bâtir. On veut le bâtir de façon amicale, collaborative, pensée, pesée. J'ai bon espoir que les uns et les autres considèrent les choses pour qu'on puisse discuter.
L'offre est toujours sur la table. Ça n'a
l'offre
pas changé. Au même
sur
niveau,
la table.
4 milliards d'euros.
Elle est toujours amicale.
Ouais.
Et on demande toujours aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités pour qu'on puisse discuter et lever, le cas échéant, tous les obstacles.
C'est un rachat qui ne se fera pas. M6 n'est plus à vendre, au moins pour les 5 prochaines années. Son actionnaire jette l'éponge malgré 3 offres jugées attractives. Bertelsmann a dû renoncer à cause des mises en garde des régulateurs, dont l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, qui a fait comprendre que la vente ne pourrait sans doute pas être validée à temps. Une nomination à la Société Générale. Marie-Christine Ducholet est nommée directrice de la nouvelle banque de détail en France. Celle issue de la fusion avec son réseau, avec celui de Crédit du Nord. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. L'appel de Bruxelles en faveur d'un emprunt commun face à la crise énergétique. Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, et le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, veulent utiliser le même mécanisme que pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire un emprunt souscrit au nom des pays européens et dont les sommes seraient redistribuées sous forme de prêts au gouvernement dans le besoin. En Allemagne, en pleine crise de l'énergie, le géant RWE s'engage à fermer ses centrales charbon d'ici à 2030. C'est 2 fois plus vite que prévu. Cette mesure devrait permettre d'économiser 280 millions de tonnes de CO2, selon le ministre écologiste de l'économie. Total Energy et Holcim s'allient pour développer la première cimenterie à zéro carbone. Il s'agit en fait de moderniser le site d'Aubourg en Belgique, qui émet 1,3 millions de tonnes de CO2 chaque année. Et puis les Jeux asiatiques d'hiver seront organisés en Arabie Saoudite. L'événement aura lieu en 2029 à Neom, une mégalopole futuriste en construction dans le nord-ouest du royaume. Une mégalopole qui promet d'être alimentée à 100% par de l'énergie renouvelable, Cédric.
Stéphanie Collot, que l'on retrouve chaque heure pour suivre l'actualité économique, le CAC 40 qui progresse de 3%, 5 967 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé entre Mathieu Bailly et Laurent Denise. Bonjour messieurs.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Mathieu Bailly pour Octo AM, Laurent Denise pour Odo BHF Asset Management. D'abord, quand on voit le rebond du jour par exemple, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit que les mauvaises nouvelles sont déjà toutes dans les cours, que c'est pricé et que maintenant on est dans un autre monde, Mathieu ?
J'irai pas jusque là, mais c'est, disons que ça fait partie un petit peu de la volatilité qu'on voit depuis 6 mois. C'est un mouvement qui pourrait se comparer à celui qu'on avait eu entre juin et juillet. C'est vrai qu'il y a, cette capitulation de temps en temps, et puis il y a ces excès sont corrigés par d'autres excès. C'est vrai que les hausses qu'on voit sur les obligations d'État depuis 2 jours, mm-hmm. l'Italie qui passe de 4,70 de taux à 4,20 de taux en deux journées, c'est tout de même majeur. Et donc, ça crée évidemment ces mouvements sur les actions. Mais c'est vrai que pour le fait que les mauvaises nouvelles soient toutes anticipées ou pricées, comme on dit, ça s'est vu notamment en juillet-août un petit peu dans les D'accord. publications de résultats, où c'est rare qu'une publication fasse décaler très à la baisse, alors que ça a pu être un petit peu le cas dans l'autre sens.
Même sentiment, enfin, vous vous dites effectivement, les mauvaises nouvelles sont déjà dans les cours ou pas complètement ?
Non, je suis désolé, là je vais casser un peu l'ambiance, mais non. Je pense qu'effectivement, c'était un peu survendu, le positionnement était extrême, le sentiment encore plus. Mais on est très très loin, des paramètres qui avaient permis au marché de remonter, vous l'avez très bien dit, et notamment une saison des résultats qui a surpris la hausse. J'ai peur que ce soit pas la même musique aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si on prend un seul chiffre, hein, ce qu'on attend en fait pour 2023, ex matière première, c'est plus 9%. Autant vous dire que c'est quand même un peu optimiste, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis à côté, effectivement, alors le pivot de la Banque Centrale Américaine qui pourrait peut-être être vu dans les prochaines semaines. Je pense qu'il y a trois gouverneurs de la Banque Centrale hier qui ont mentionné leur volonté de maintenir cette hausse de taux. Je pense que c'est une volatilité extrême qui est aussi mesurée à la hausse avec ces 3%, mais un rattrapage qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant comme étant une jambe haussière à venir. Je ne crois pas qu'on soit dans cette configuration actuellement.
Alors rentrons un petit peu dans le détail, et notamment parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des banques centrales, on a beaucoup parlé des cas des uns et des autres, et il y a ce qui s'est passé effectivement sur le marché obligataire. Vous en parliez entre les lignes, Mathieu. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? C'est quoi? C'est un problème spécifique du UK, enfin du Royaume-Uni, ou c'est plus grave?
Alors le sujet, il est un petit peu général, du moins en Europe. Les États-Unis avaient pris un petit peu d'avance sur la politique monétaire. La Banque centrale avait prévu à l'avance. Ça fait déjà 18 mois, parce qu'ils étaient sortis plus vite que nous de cette crise Covid. Ils avaient eu le temps un petit peu de préparer et de commencer leur hausse de taux ou leur politique un peu plus restrictive avant que la crise ukrainienne arrive. En Europe et au Royaume-Uni, parce qu'on est toujours un petit peu plus lent et parce qu'on n'avait pas les mêmes problèmes non plus, hein, on était un peu plus englués et que la crise ukrainienne ensuite nous a beaucoup plus touchés, on se retrouve un peu en retard. Et il y a ce sujet qui était un petit peu la crainte de certains analystes depuis quelques années, c'était la crédibilité des banques centrales. Une fois qu'elles ont tout fait, quand elles arrivent au bout et qu'elles ont multiplié les liquidités par 10, c'est à peu près le niveau pour la Banque Centrale Européenne, en 10 ans ou 15 ans, quelles autres armes elles ont, comment elles peuvent se retourner? Et là, elles sont un peu coincées parce que les sujets qu'elles voulaient résoudre ne sont pas résolus, c'est-à-dire le désendettement des États européens et le fait qu'on arrive à une meilleure homogénéité économique, sociale, politique, budgétaire, fiscale, enfin tout, des pays européens. On n'y est pas arrivé et on se retrouve encore dans une nouvelle crise où il faut essayer de gérer des pays qui sont dans des situations totalement
différentes. Mais donc il n'y a pas de spécificité britannique?
Alors après, sur la partie Royaume-Uni pure, il y a sûrement un peu plus de spéculation parce que c'est devenu une zone isolée, contrairement à l'Europe qui est encore beaucoup plus importante en termes de masse. Et le fait qu'elle soit dans ce sujet un peu mix entre le change qui bouge un peu, la partie matière première qui les touche beaucoup plus que d'autres pays. Et puis cette envie de spéculation un petit peu des marchés qui se rappelle peut-être les épisodes d'il y a 30 ans et qui se dit, est-ce que ce serait pas un nouvel épisode sur lequel on pourrait spéculer sur la livre sterling, voilà.
Il y a un problème spécifique britannique ou c'est effectivement un problème obligataire plus...
Je vous rejoins sur le fait que c'est un problème obligataire un peu plus global, mais il y a quand même un problème britannique. On a une contradiction encore plus marquée entre la politique de la Banque centrale qui veut lutter contre l'inflation, inflation importée notamment avec l'énergie et la baisse de la livre sterling qui a été évoquée. Mais en face, on a un mini-budget, c'est pas un mini-budget, c'est une relance keynésienne énorme, non financée, et donc ça marque un point de rupture, et notamment au niveau du soutien qui n'est pas apporté par les opérateurs sur cette contradiction et surtout sur ce décalage entre un stimulus fiscal absolument pas approprié. Pourquoi ? Parce qu'il maintient la demande et donc il va maintenir l'inflation en soutenant cette demande, et ce qui est contraire à ce que souhaite la Banque centrale et qui est l'objectif majeur qui est porté par l'ensemble des banques centrales développées. Donc il y a quand même une spécificité anglaise et qui est un premier signal d'alerte et qui montre qu'on est peut-être au bout, et là je vous rejoins sur la crédibilité des banques centrales, d'une dialectique en fait où les gouvernements financés par les banques centrales peuvent apporter leur soutien.
Bien sûr.
Le ratio dette sur PIB, il est à des niveaux aujourd'hui qui deviennent un peu moins tolérables, en tout cas qui vont être observés. Les bond vigilance, comme on les voyait dans les années 90, hein, j'en fais partie, sont de retour. Et ça, c'est
Mais
un vrai signal.
Ça veut dire, dans ce que vous dites et l'un et l'autre, que toutes nos grandes banques centrales doivent aussi se nourrir de cet exemple-là, de cet exemple britannique, de ce qui se passe pour essayer d'en tirer des leçons, d'apprendre aussi de ce moment-là ?
Les banques centrales et les gouvernements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Italie, si elle était autonome, aurait le même problème que le Royaume-Uni, la France sans doute aussi. On profite en fait de ce parapluie européen, du parapluie un peu allemand, on va dire, hein, et des liquidités qui profitent à tous. Mais finalement, si on était chacun autonome, c'est le problème du Royaume-Uni aujourd'hui, c'est que sa banque centrale...
Ils n'étaient pas sous le parapluie de la BCE, voilà.
Mais du coup, ils ont toujours été aussi plus volatiles et n'ont pas eu les mêmes rendements à zéro qu'on a eu, nous, pendant 10 ans.
Un parapluie allemand, oui, sauf que le parapluie allemand, là, il commence à avoir des petits trous, non ? Enfin, je veux dire, ces 200 milliards mis sur la table par Berlin, ça fait grincer des dents sous le parapluie.
Mais c'est, je pense que c'est la première pierre à la fragmentation. En fait, si on reprend les choses dans l'ordre, l'Italie ne va pas pouvoir suivre. En fait, là, on a un stimulus fiscal qui va accentuer en fait, les déséquilibres. Alors, l'Allemagne peut se permettre, parce qu'elle a un ratio de dette sur PIB, effectivement, qui est très loin des 100%, mais ce n'est pas le cas de la France, ce n'est pas le cas de l'Italie, ce n'est pas le cas de l'Espagne. Donc, quid, en fait, de ce bouclier énergétique qui ne va pas être le même à l'intérieur des différents pays européens Les marchés, là, sonnent l'alarme et l'alerte sur les banques centrales, mais aussi les politiques fiscales qui sont mises en place. Au UK, trop fortes, mais trop d'écart, en fait. Et alors, M. Breton et M. Gentiloni ont appelé à l'émission d'obligations européennes. C'est peut-être une solution.
Oui, ils essayent de refaire l'union sacrée, style Covid, quoi.
Exactement. Si c'est en fait une démarche unilatérale des Allemands, je pense qu'elle est assez malvenue. Alors, elle va défendre le peuple allemand, hein, parce qu'effectivement, leur facture énergétique, elle ne monte pas de 15%, mais de 100%, voire 150%. Donc, ça commence à mordre très sérieusement. Mais attention aux effets de bord, quand même, sur les pays périphériques.
Oui.
Et donc, finalement, cette fragmentation...
Oui, il y a cette fragmentation. Et puis, il y a aussi le fait que, comme c'est la chancellerie qui va régler directement la facture... Enfin, je fais un raccourci, de gaz des entreprises, ça veut dire quand même qu'il y a une distorsion de concurrence par rapport à une entreprise française, italienne, autrichienne...
Par décret, c'est d'abord les ménages qui sont
aidés,
et ensuite les sociétés. Juste pour vous dire quand même que les sociétés... chimiques au niveau des métaux, l'énergie sont quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Le coût énergétique est juste insupportable. Toutes les fabriques d'aluminium en fait ont arrêté 50% de leur production. C'est une catastrophe quand même annoncée en Allemagne. On comprend qu'ils réagissent, enfin qu'ils réagissent pas de manière unilatérale et qu'effectivement ce soit coordonné. Ce n'est pas le cas. Et ça pose encore la même question sur la réaction de l'Europe par rapport à une situation extrêmement complexe.
On était sur ces banques centrales et sur le cas européen notamment. Cas européen qui est aussi un peu arrimé, bien malgré elle, entre guillemets, à la cadence imposée, à la détermination de la Fed. C'est-à-dire que la semaine dernière, quand Olli Rehn nous dit il va falloir être ferme, 50, 75 ou autre chose, c'est la traduction que ça se décide à Washington.
Oh, c'est un peu un mix entre les deux, parce qu'il faut effectivement...
Sinon, on laisse l'euro dériver, quoi.
Voilà, la variable d'ajustement, c'est l'euro, et c'est vrai que autant s'il se déprécie un petit peu, alors il s'était déprécié fortement, mais on peut se dire que ça va favoriser les exportations quand on peut exporter, mais pour le moment, le sujet, c'est plutôt l'importation. L'exportation, c'était il y a 2-3 ans, mettons. Aujourd'hui, le sujet, c'est les matières premières. Et quand le dollar, les matières premières sont souvent payées en dollars, quand le dollar s'enchérit de 20% face à l'euro... c'est encore ça en plus.
C'est difficile à rattraper. Ouais.
Donc c'est vrai qu'il y a ce sujet qui aujourd'hui de suivre un petit peu le rythme commun des banques centrales les plus agressives, on va dire, notamment la Fed, plus le sujet de l'inflation qui reste prégnant et qui inquiète aujourd'hui parce qu'il y a toujours ce phénomène un peu auto-entretenu où on se dit jusqu'où ça peut aller. Pour l'instant, ça ne s'est pas transmis entièrement dans les salaires, mais du coup, cette crainte de deuxième vague sur les salaires, sur les loyers, sur etc., etc., fait craindre la BCE et préférerait se redonner des cartouches, comme l'a fait la Fed. Alors, ils le font peut-être en un peu plus accéléré, en se disant, je pense, hein, c'est un peu l'impression que ça donne, advienne que pourra. Ce qui n'est pas très rassurant, peut-être.
C'est vrai que cette détermination, cette cadence de la Fed, elle ne fait pas les affaires de la BCE.
Non, surtout qu'effectivement, elle était tellement en retard, la BCE, et là, elle ne court plus derrière la courbe, mais derrière l'euro. Donc, c'est exactement ce que vous avez dit. Donc, on est dans une autre dialectique. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas le même problème. C'est une inflation exogène en Europe et plutôt endogène aux États-Unis. Donc, lutter par une hausse de taux sur un problème énergétique, ça n'aboutit à rien. Et ça va juste casser la croissance encore plus. Donc, oui, dicté par la Fed, à cause effectivement de la problématique de change, je crois que la BCE n'aura pas le choix que de monter ses taux. Et les anticipations aujourd'hui d'une sorte de pivot, encore une fois, me paraissent exagérées par rapport à ça, par rapport au fait que le coût de la facture énergétique est trop élevé aujourd'hui. Et ça va casser quoi ? Ça va casser la croissance et le marché de l'emploi. Et il faut passer par ça. Le sacrifice de la croissance, ce qu'a dicté un petit peu la Fed, en fait, à l'ensemble des banques centrales développées, est en train de se mettre en place. Malheureusement, l'Europe va en subir encore plus les conséquences qu'aux États-Unis, où on peut peut-être avoir une récession faible. Ce n'est pas le cas en Europe.
Du coup, comment on traduit tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait dans nos portefeuilles, Mathieu ? Alors vous, c'est plutôt obligataire ? Alors
nous, voilà, on est très spécialisés obligataires, donc je ne vais pas vous donner des allocations. Après, ce qu'on a... C'était d'abord un sujet sur les taux, cette année. C'est-à-dire que ça a commencé par les taux qui montent, les banques centrales qui montent les taux, et donc les obligations ont baissé en premier, puis ensuite, ça a emmené un petit peu les autres actifs. Il y a sans doute des actifs qui sont un peu en retard, des actifs un peu moins liquides qui, du coup, ne se sont pas forcément actualisés sur les nouveaux niveaux de rendement. Clairement, est-ce que de l'immobilier à 3% de rentabilité a autant d'intérêt quand les taux sont à 5 ou à 4 que quand ils étaient à 0 ? On peut se poser la question. Et puis après, même dans les entreprises, on voit certaines obligations très décotées qui peuvent être à 9, 10% de rendement quand l'action, le PER de l'action en rendement va rapporter 6, 7, 8. Et on se dit, c'est étonnant que les obligations rapportent plus que les actions alors que normalement, on est créancier et donc on est prioritaire. Dans un monde de récession, et là, bon, c'est vrai que je vous rejoins un petit peu là-dessus, on peut se dire... L'économie ne va pas capituler en entier et on peut espérer qu'il n'y ait pas 15, 20, 30% de faillite parmi les entreprises. Pour autant, on peut aussi se dire que probablement...
Oui, parce que certains disent, et on voit certains de vos petits camarades qui insistent pas mal sur leurs produits de portage,
plus
pour
aujourd'hui,
sur du taux, quoi.
Voilà, sur ces produits de portage, si vous avez 30 à 35% de faillite dans le portefeuille, vous faites zéro de performance à horizon 4, 5, 6 ans. C'est vrai que historiquement, en 2002-2008, on était plutôt sur des niveaux de 10% de faillite. On peut imaginer que même si on dépasse à 15-20, voilà, que ce soit dans ces ordres de grandeur et que du coup, il n'y a pas forcément beaucoup à perdre aujourd'hui vu les niveaux de rendement.
Voilà pour le côté. Et alors, chez vous, comment est-ce que vous réglez le curseur ? Vous vous gavez de valeurs défensives ou...
Absolument pas. On est très prudent sur les actions. Les valeurs défensives sont trop chères. J'ai presque envie de vous dire que les valeurs cycliques commencent à offrir un couple risque-rendement attractif. On est sur l'automobile à 2,5 fois les multiples, en multiples les résultats de 12 mois. Mais la vraie opportunité, c'est vraiment l'obligataire aujourd'hui. Et pas les obligations d'État, hein, c'est trop volatile, fragmentation. C'est vraiment les obligations de crédit parce qu'effectivement, on commence à presser une vraie récession et donc on a des probabilités de défaut qui ne sont pas loin des 50%. Vous parliez de 30%. Bon, ben voilà, on a déjà 20% de prime. Donc c'est là où il faut aller aujourd'hui, doucement. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des écartements de spread, vraisemblablement. Mais les actions, on est vraiment très prudents aujourd'hui. Alors, cyclique défensive, j'ai presque envie de vous dire, c'est même pas le sujet. Je préfère plutôt aller sur des segments qui attirent encore des flux, parce que c'est quelque part ce qui vous dicte la performance ou la résilience en fait des actions, notamment la transition écologique. On parle de ce plan de financement encore une fois, et puis la sécurité, cybersécurité. Je pense que c'est vraiment deux segments qu'il faut privilégier. Cyclique défensif, quand on regarde la performance en fait depuis 3 mois, c'est quasiment flat, et c'est pas ça qui va vous créer une opportunité majeure aujourd'hui. Ça dépend de cette dialectique récession inflation et la manière des sociétés de pouvoir le traverser, et donc pricing power, capacité à avoir des cash flows stables, etc.
Ça veut dire qu'il faut être hyper sélectif, quoi. C'est le retour du bond picking ou du stock picking, quoi.
Oui, et aussi c'est vrai que la partie cyclique ne veut pas forcément dire grand-chose. Les cycliques, aujourd'hui, quand on dit oil and gas, en général, on disait c'est très cyclique, et puis aujourd'hui, ils sont en plein boom. Le transport, si vous êtes CMA-CGM d'un côté qui fait du fret pour Amazon, je schématise un peu, ouais. Mais ou de l'autre côté, vous êtes dans le voyage, vous aurez deux comportements totalement différents. Donc effectivement, les changements actuels font qu'il faut revoir un petit peu ces catégorisations.
Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Denise, Odo BHF Asset Management, et Mathieu Bailly pour Octo AM. Était autour de la table pour Regard Croisé, le marché parisien. Lui, elle continue son petit bonhomme de chemin. On lorgne les 6000 points. 5960 pour le moment. C'est une hausse de 2,87%. On va aller voir ce qu'en pense Romain Daubry, qui suit pour nous cette séance ce matin depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Et puis, vous n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur notre site ou sur vos plateformes préféré.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On file tout de suite sur le marché à 11h30 pour entamer cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine. C'est Romain Daubry que l'on retrouve au cœur de la cellule info d'experts de Bourse Direct et qui suit pour nous cette matinée. Rebonjour Romain. Bah pour le moment, la volonté de grimper ne se dément pas.
Rebonjour Cédric. Non, effectivement, toujours pas. On vous avait indiqué 5970, 6040. On bute sur 5970 sur le futur à l'instant. Mais on n'a pas de d'invalidation de la hausse. On était arrivé à un paroxysme de pessimisme sur le marché, et c'est surtout des éléments techniques qui se mettent en place pour l'instant. On n'a pas de structure de retournement haussière très forte qui se met en place, mais il y a quand même quelque chose qui se produit. On a eu pas mal de gaps haussiers sur beaucoup de valeurs aujourd'hui et sur des indices, et ça pourrait être des gaps de rupture. Donc ça va être ce qu'on va surveiller comme niveau à ne pas rompre pour ne pas invalider ce mouvement. Pour l'instant, même si on reste vigilant, on est agile, on bouge pas mal nos positions, on reste et on accompagne ce mouvement haussier. C'est la lecture de la position verte sur le futur qui nous avait permis de rentrer à l'achat jeudi et puis vendredi et puis lundi matin sur des niveaux de support. On a déjà allégé une partie de nos positions sur l'indice parce qu'on pense que le marché peut être toujours volatile. En revanche, on accompagne avec pas mal de valeurs parce que il y a quelques éléments qui se mettent en place, mais globalement, c'est pas une structure de retournement de fonds qu'on voit ici. La séquence d'alternance haussière baissière et d'arbitrage comme ça va durer, et probablement pendant quelques temps, parce qu'il y a trop de facteurs qui sont impossible à mesurer dans l'immédiat. En plus, on a de gros rendez-vous qui arrivent cette semaine, les chiffres américains de l'emploi, des PMI aussi demain, les directeurs d'achat qui sont toujours importants aussi, et puis la saison des publications des entreprises qui va nous en dire plus. Et on a vu déjà des comportements assez différents selon les valeurs. On a vu que Nike ou FedEx avaient été sanctionnés pour manque de visibilité. Dès que des titres, en revanche, arrivent à en donner un peu, c'est mieux. Je la cite régulièrement en ce moment, mais elle est assez emblématique. Trigano, qui était une des stars de la période 2020-2021, avait beaucoup retracé, et comme elle a donné de la visibilité, elle se comporte bien. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. Toutes les valeurs ne sont pas en train de se retourner, mais il y a beaucoup d'éléments. Sur les indices, en fait, il faut préserver les niveaux de rupture, donc comme je disais, de gap. Sur le S&P, le fait de réintégrer 3634 points est important. Ça, c'est aussi un point de repère large sur les marchés. Maintenant, la logique indicielle, je pense qu'elle va être compliquée, qu'il va falloir faire du tri, effectivement, beaucoup de stock picking sur les valeurs. Côté sectoriel, on est rentré, nous, sur le secteur des ressources de base. Le secteur de l'énergie, globalement, repaye après avoir consolidé un peu. Il y a l'industrie qui donne des signaux aussi. Et si on veut travailler sur les matières premières, on est rentré à nouveau sur l'indice CRB, Thomson & Reuters CRB, qui est un indice, un panier de matières premières, 19 matières premières, qui a donné des signaux d'entrée. si on veut travailler sur les valeurs fortes, j'en ai sélectionné trois particulièrement sur le CAC, c'est Hermès, Publicis ou Schneider Electric, qui elles sont fortes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été vendues au cours de la séquence baissière, ou en tout cas moins que le reste du marché, au cours de la séquence baissière qu'on a connue. Et puis, si on veut travailler des recovery, il y en a aussi pour tous les goûts, il y a Atos, qui, sur lesquels il se passe quelque chose quand même, Eurofins, scientifique, et puis sur des plus petites valeurs et dans des secteurs différents, mais il y a des valeurs qui sont des grandes valeurs des années précédentes et qui ont pas mal retracé, des valeurs comme Somfy revenue sur des niveaux importants, ou des valeurs comme Voltalia. Donc il y a pas mal de choses à faire, des arbitrages, des opportunités, mais on restera mobile dans un marché dont on sait que la séquence et les retracements sont possibles. En tout cas, pour l'instant, aucun signaux d'invalidation. Si on repasse 5970, 6040 sur le CAC 40, eh bien on neutralise la séquence baissière et on reste neutre jusqu'à 6480 points. Donc vous voyez, il y a de la marge et un marché qui a du temps pour osciller.
Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc Bourse Direct, qui nous accompagnait ce matin pour prendre le pouls de technique de ce marché qui grimpe à plus de 2,9%, 5962 points. On grimpe aussi ailleurs en Europe, plus de 79 pour l'euro Stoxx 50. L'euro dollar est à 98,67.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Et on retrouve Valérie Montel. Bonjour Valérie.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour l'ingénierie patrimoniale de Lombard Odier. Et on va s'intéresser aux entrepreneurs et à leur régime matrimonial. Alors, quel régime matrimonial pour les entrepreneurs ?
Alors, effectivement, c'est une question importante pour eux, parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et l'entreprise, c'est un peu comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, et parfois le pire arrive, et pour dans la vie des affaires, le pire, c'est la faillite. Mmh. Et là, le choix d'un régime de communauté n'est pas forcément judicieux, parce que les biens communs, comme le logement familial, peuvent être saisis par les créanciers. Et donc, c'est une décision de protection pour un entrepreneur de ne pas être soumis au régime légal de communauté réduite aux acquis.
Donc, ça veut dire que c'est particulièrement sensible comme question au moment où... où l'on fait son choix.
De dire oui, exactement. Ouais. Et il faut vraiment faire le choix parce que sinon, vous êtes marié sous, à défaut, vous êtes marié sous le régime légal. Donc, avant d'aller devant monsieur le maire, il faut penser à aller devant son notaire pour choisir un autre régime. Sinon, à défaut, on est sous le régime de la communauté réduite aux acquis.
Alors, le pire pour l'entrepreneur, ça peut être donc aussi le divorce. Quand le couple est marié en communauté, le régime matrimonial a aussi des conséquences importantes en cas de divorce.
Alors, exactement. Quand l'entreprise a été créée au cours du mariage, elle est considérée comme un bien commun, même si seul l'entrepreneur est propriétaire des titres de l'entreprise. Et donc, au moment du divorce, si c'est un bien commun, eh bien, la valeur va être partagée entre les époux. Donc, ça veut dire souvent que l'entrepreneur va être amené à racheter ses parts à son conjoint. Donc là, il peut y avoir des litiges, notamment sur la valorisation.
Bien évidemment.
Il peut y avoir vraiment des discussions. Le conjoint peut vouloir exercer ses droits de vote dans l'entreprise. Ça peut mettre en péril, en fait, la pérennité de l'entreprise, voire conduire à sa vente.
Là, vous évoquez le cas où l'entreprise est créée pendant le mariage. Mais ça veut dire que si elle est créée avant, on est tranquille ?
Alors, exactement. Pendant le mariage, c'est un bien commun, alors que tous les biens acquis avant le mariage restent des biens propres. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des petites subtilités. Par exemple, si vous mettez de l'argent dans l'entreprise ou vous rachetez les parts d'un associé pendant le mariage, ça va devenir des biens communs. Ou si vous avez une société et que cette société vous verse des dividendes, ça aussi, ce sont des biens communs.
Ah oui. Alors, ça veut dire que l'entrepreneur, il va vouloir éviter les potentielles difficultés et que dans ces cas-là, il faut opter pour un régime de séparation ?
Alors voilà, le régime de séparation va avoir des avantages par rapport aux inconvénients que j'ai évoqués. Donc, premier avantage, c'est d'être protégé en cas de faillite puisque les patrimoines sont séparés, et puis d'être protégé en cas de divorce puisque chacun reste propriétaire de ses biens. Néanmoins, l'entrepreneur devra garder en tête que si son entreprise s'est beaucoup valorisée et que s'il y a eu de nombreuses années de mariage, le conjoint pourra prétendre au versement d'une prestation compensatoire.
D'accord.
Dont le montant dépendra de la valeur de l'entreprise. Et donc, cette prestation qui sera versée en capital, il faudra la financer. Et donc, l'entrepreneur doit avoir les capitaux pour pouvoir la financer. Mais vous, ça sera moins cher que, ouais. Que la communauté.
Vous précisez là que, effectivement, si on est dans ce régime de séparation, ça protège en cas de faillite, etc. Encore faut-il que le régime de l'entreprise soit adopté à ce régime matrimonial aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la conjointe en régime de séparation soit mandataire sociale de l'entreprise, parce que sinon, on annule le bénéfice du régime matrimonial, c'est
exactement.
Ça. Hein. Donc, faut que les deux marchent de concert.
Exactement.
Hein, on est d'accord. En cas de décès, c'est pas très protecteur pourtant la séparation.
Exactement. En cas de séparation, effectivement, s'il y a un décès, vous n'avez, le conjoint n'a pas de droit au titre de son régime matrimonial, mais il en a en tant qu'héritier au titre de la loi. Il hérite à côté des enfants, et donc s'il y a une entreprise, il peut également recevoir des parts de l'entreprise. Ce qui peut poser des difficultés quand on est dans des situations de famille recomposée. Si vous avez un conjoint qui hérite de 25% de l'entreprise et les enfants d'une première union ont le reste de l'entreprise, ils peuvent vouloir racheter les parts à ce conjoint. Et là, il peut y avoir aussi des tensions par rapport à la valorisation, comme il peut y en avoir en cas de divorce. Donc là, effectivement, on conseille aux entrepreneurs de prendre des dispositions par testament pour peut-être éviter que le conjoint se retrouve dans l'entreprise aux côtés de ses enfants et de le protéger par ailleurs. Par exemple,
c'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions, en fait, qui exactement. Permettent d'adapter un petit peu les choses.
Exactement.
Hein. La participation aux acquets, qu'il ne faut pas confondre avec la communauté réduite aux acquets et la société d'acquets, est-ce qu'on peut en dire un mot ?
Alors oui, vous évoquez la société d'acquets. Alors la société d'acquets, c'est une variante de la séparation de biens. En fait, c'est vous modifiez votre régime de séparation de biens en créant une communauté sur mesure, où là, vous allez dire, par exemple, je mets ma résidence principale, ma résidence secondaire, et ça, ce sont des biens communs. Donc c'est... Vous êtes toujours dans un régime de séparation, mais légèrement aménagé. La participation aux acquets, c'est un autre régime matrimonial qui est hybride, c'est-à-dire qui a les avantages de la séparation et de la communauté. Donc, les avantages de la séparation, c'est que chacun, en fait, pendant la durée de vie du mariage, a son patrimoine personnel, donc il n'y a pas de problème en cas de faillite. Et en revanche, tout ce qui est valorisation acquise pendant le mariage est partagé en deux, en cas de divorce et en cas de décès. Alors, jusqu'à une période récente, les entrepreneurs qui choisissaient ce régime excluaient leur entreprise de ce partage. Ils pouvaient le faire en prévoyant une clause spéciale dans leur contrat de mariage. Et donc, ils partageaient le reste, si vous voulez. Et maintenant, ce n'est plus possible de faire ça.
D'accord.
Donc, les personnes qui ont opté pour ce régime matrimonial, eh bien, ils doivent s'attendre à partager la valeur de l'entreprise en cas de divorce.
Bon, on a commencé en se demandant quel régime matrimonial pour les entrepreneurs. Donc, une fois qu'on a parcouru tout cet inventaire... En résumé, quel est le meilleur régime pour l'entrepreneur ?
Eh bien, comme toutes les décisions patrimoniales, c'est celles qui correspondent à vos objectifs. Il n'y a pas de bon ou de mauvais régime, mais le bon régime, c'est celui avec lequel vous allez avoir le moins de surprises au moment où les choses vont mal tourner. Donc, si vous êtes plutôt dans un esprit de collaboration, c'est vrai qu'il vaut mieux s'orienter vers ce régime de participation aux acquets, alors que si vous considérez que chacun doit être propriétaire que de ce qu'il a acquis avec son travail professionnel, eh bien là, il vaut mieux rester sur la séparation.
Et surtout, on va rappeler, parce que c'est valable pour ce cas-là comme pour d'autres cas patrimoniaux, ce n'est pas parce qu'on parle d'un sujet qu'il est autoréalisateur. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle de séparation dans un contrat de mariage qu'on va forcément se séparer. Hein.
C'est exactement.
Il vaut mieux en parler quand tout va bien, même.
Mais c'est aussi, le mariage, c'est aussi un contrat qui comporte des engagements. Et donc, il faut être conscient de ces engagements.
Merci beaucoup Valérie Montel et l'ingénierie patrimoniale de Lombard Odier qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien poursuit sa hausse, plus 3,01, 5968 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Chaque jour, on répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et aujourd'hui, c'est Mireille Wimbert qui nous accompagne. Prête Mireille ?
Prête Cédric.
Nathalie vous écrit, elle vient d'entendre parler de plan, elle vient de vous entendre parler de plan d'épargne retraite d'entreprise. Et effectivement, nous dit-elle, quand on a beaucoup changé d'entreprise, on peut oublier un ou deux contrats au passage. Et elle se demande s'il n'existerait pas un outil magique, enfin une espèce de fichier qui recenserait tous les contrats d'entreprise détenus.
Ben, j'ai une excellente nouvelle. Cet outil magique existe et il est même public.
Là.
C'est, oui, vous savez, le site sur lequel on va pour avoir son relevé de carrière pour les retraites, sur lequel on a son estimation, sur lequel on peut faire ces fameuses simulations Marel pour savoir combien. Voilà. Donc ça, c'est le site public qui rassemble les 42 régimes de retraite. Donc le site, c'est info-retraite.fr. Ce site-là, depuis quelques semaines, là, maintenant, il a un nouvel onglet qui s'appelle Mon épargne retraite, dans lequel vous aurez listé exactement tous vos produits d'épargne retraite. Donc, tous ceux dont j'ai parlé tout à l'heure pendant ma chronique, donc le PER, le plan d'épargne retraite individuelle, les contrats collectifs d'entreprise, l'épargne salariale...
Donc, dès qu'il y a un truc à notre nom...
Tout, oui, que ce soit individuel ou collectif. Donc bien. Ça, c'est dedans. Qu'est-ce qu'on a? Donc, vous allez sur le site info-retraite.fr, vous allez dans cet onglet Mon épargne retraite. Dedans, vous aurez quoi? Vous aurez la liste de vos contrats avec... le nom du gestionnaire, enfin de l'organisme financier qui porte ce contrat, le numéro du contrat et les coordonnées du gestionnaire. Donc vous pouvez faire nécessaire, vous lister si vous en avez oublié, ça arrive. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, les contrats, notamment les contrats d'assurance collectif, les fameux articles 83 ou les nouveaux pairs collectifs, là, ceux-là c'est automatique. Je verse sans m'en rendre compte, c'est pris sur mon salaire. Donc des fois même je les oublie.
Même pas
je les oublie, il reste un petit bout, mais ça peut être intéressant de rassembler tout ça. Mm-hmm. Et donc il n'y a pas les montants encore. On ne sait pas combien il y a dessus. Alors ça, les organismes financiers, l'an prochain, en 2023, ils pourront mettre les montants dessus. Et à partir de 2024...
Ils pourront ou ils devront?
Ils pourront. Et ce sera obligatoire en 2024. Ils devront en 2024. Et est-ce que c'est fiable? À l'heure où je vous parle, si les gens qui m'écoutent vont immédiatement sur info-retraite.fr, c'est fiable à 95% à ce jour. Ça sera 100% des produits que vous avez à la fin de l'année. Il faut le temps qu'il y ait encore des gestionnaires qui n'ont pas rempli le truc, etc., etc.
Donc Nathalie, encore un peu de patience.
Vous pouvez déjà aller voir, ça vous donnera une bonne idée. Ouais. De toute façon, ça n'engage à rien. Vous allez voir, ça prend deux minutes. Vous allez sur info-retraite.fr, vous mettez votre numéro de sécu, vous avez tous vos éléments, ça prend 3 secondes et demie. Et vous regardez ce qu'il y a là.
En plus, ça vous permettra de regarder tout le reste.
Voilà, ça vous permettra de regarder tout le reste, qui n'est pas idiot. Et puis, vous pouvez évidemment y retourner en début d'année prochaine pour être certaine.
Voilà, Nathalie. Question de Thierry qui nous dit « Je suis beaucoup plus jeune que mon épouse et on me dit que dans cette configuration, le plan d'épargne retraite est très avantageux pour moi. » Et il voudrait bien savoir pourquoi.
Oui, ça le PER n'est pas fait pour ce à quoi il pense. Certains disent, bah écoutez, si Thierry est beaucoup plus jeune que sa femme, qu'il souscrise donc un PER à son nom. Et puis, comme il est jeune, il va épargner très longtemps. Il pourra sortir qu'au terme, hein, en capital certes, mais en attendant, bah, il est coincé. Mais comme son épouse est beaucoup plus âgée que lui, il y a quand même des chances qu'elle décède avant lui. Et il se trouve que le PER, il y a des cas de déblocage qui sont liés, mais c'est à des cas de force majeure un peu... Je ne parle pas de la résidence principale qui n'est pas concernée dans ce que je dis là. On peut sortir d'un PER pour acheter sa résidence. Mais il y a des cas, il y a 5 cas.
Donc
c'est le décès du conjoint ou du partenaire de PACS, l'invalidité du conjoint ou du partenaire de PACS, même des enfants, le surendettement, la fin du chômage, la liquidation judiciaire. Dans toutes ces situations-là, vous pouvez récupérer votre capital avant le terme du contrat, donc avant la retraite. Et alors... L'intérêt, c'est quoi? C'est pas de récupérer son capital, ça n'a aucun sens.
C'est de l'intérêt, se débarrasser de son conjoint?
Non plus, Cédric. L'intérêt, c'est que quand on fait ça, c'est très très avantageux fiscalement, parce que ce capital qu'on récupère, c'est un cas finalement de prévoyance pour protéger les gens. Et bien là, par exemple, il va être taxé si on récupère de cette manière-là. Il y aura juste des prélèvements sociaux sur les gains. Alors que si... vous sortez normalement après, il y a de l'IR sur le capital et 30% sur les gains. Alors, mais je vous dis, c'est pas fait pour ça, parce que pour que ça fonctionne, encore faut-il que son épouse décède pendant que le contrat est bloqué, donc avant qu'il ne soit à la retraite. Si son épouse décède après qu'il ait 62 ans, ça sert à rien. Donc ce n'est pas fait pour ça. Oubliez ça. Il y a des milliers de manières de protéger un époux jeune. Celle-là est vraiment, à mes yeux, aléatoire.
Alambiquée.
Et vraiment, bon, faut vraiment aimer, payer pas peu d'impôts, c'est pas fait pour ça.
C'est pas fait pour ça.
Non.
Bon, c'est Ça peut exister, mais c'est...
Ça peut exister, voilà. Si ça vous arrive, tant mieux. Mais enfin, on cherche... Enfin, tant mieux, évidemment pas. Mais
on tourne autour,
non,
mais voilà.
Non, ouais, arrêtez de me faire parler sur cette
de faire dire des bêtises.
Délicate, oui.
Question de Gwendoline. Elle va payer des impôts pour la première fois l'année prochaine et elle a bien envie d'acheter des FCPI. Et elle voudrait savoir ce que vous pensez de ces produits et surtout, bah, comment les choisir.
Alors, ces FCPI, à l'époque, elles étaient un peu mal aimées.
On rappelle,
hein,
c'est fonds communs de placement dans l'innovation.
Oui, pardon, dans l'innovation. Donc, c'est du private equity. Vous
pas confondre, non, mais parce que...
Vous investissez dans un fonds.
Sur les CPI, il y a les SCPI, les OPCI, les voilà. FCPI. Donc, il
là,
fallait
on
remettre...
Là, on investit dans du capital d'entreprises innovantes via un fonds.
Voilà, c'est pas voilà. De l'immobilier.
Cet investissement-là vous donne droit à une réduction d'impôts. C'est pour ça qu'elle en parle, puisqu'elle parle, elle paye des impôts pour la première fois. Donc, ces FCPI, elles étaient un peu décriées à l'époque de l'ISF, parce qu'elles procuraient déjà une réduction d'impôts sur le revenu, comme c'est le cas actuellement. Mais elles procuraient surtout une énorme, beaucoup plus grosse... réduction d'ISF. Et donc, on voyait un peu n'importe quoi sur le marché. C'était, voilà. Bon, depuis qu'il n'y a plus d'ISF, ça, ces FCPI ne sont plus efficients, ne fonctionnent plus pour limiter l'ISF puisqu'ils n'existent plus. Donc, elles ne permettent plus que de réduire l'impôt sur le revenu. Et du coup, il y a eu un genre de nettoyage du marché. Si vous voulez, les organismes les plus vertueux sont restés. Donc, aujourd'hui, on peut dire que... Il faut quand même regarder. Je vais lui dire ce qu'il faut regarder. Mais globalement, aujourd'hui...
Il y a moins de canards boiteux.
Il y a moins de canards boiteux. Voilà. Donc, alors, ces produits-là, qu'est-ce que c'est ? Vous mettez un ticket, vous avez une réduction qui va de 22 à 25%. 25%, c'est rare. Il y en a chez Vattel, par exemple, Vattel Capital, mais les autres, en général, c'est 22, 22,5, 23, parce qu'en fait, on a cette réduction que sur ce qui est réellement investi dans les PME innovantes. Il y a des choses qui sont pas, qui peuvent être gardées en cash ou qui peuvent être les frais, etc. Bon, bref. Donc, une réduction d'impôt de cet ordre-là. Ce qui est intéressant avec les FCPI, c'est que vous pouvez... C'est des petits tickets, c'est à partir de 1 000 euros. Donc, si elle a, par exemple, je sais pas, une petite cotisation d'impôt à payer, elle peut calibrer son versement en fonction de ce qu'elle a payé.
D'accord.
Donc ça, c'est intéressant.
C'est pas des tickets...
C'est bloqué. Là, sur le marché, ils vous disent 7 ans renouvelable, 2 ans, donc 9 ans. Vattel, encore une fois, est différent puisqu'eux, ils sortent au bout de 6 ans. Vous ne pouvez pas donc récupérer votre argent pendant ce temps-là. Et c'est extrêmement risqué puisqu'on investit dans des PME innovantes. Donc, les performances, ça va de... Par exemple, chez Isatis, ils font du capital développement, ça va de moins 9 à plus 45, je crois. Chez Euraseo, ça, c'est du capital risque, c'est encore plus risqué, c'est de moins 20% à plus 80%. Donc, vous voyez, vraiment la fourchette des performances, elle est très, très, très large et ça va très négatif comme en très
mais
positif.
Surtout, ce qu'il faut aussi dire à Gwendoline, c'est que vous nous donniez les périodes, mais si au bout de la période, tout n'est pas débouclé...
Oui, faut attendre.
Hein, c'est
faut
ça.
Attendre. Donc, ça peut être beaucoup plus long.
C'est pas dans 8 ans, on prend mon argent.
Ça peut être beaucoup plus long que ce qu'on imagine.
Ouais, c'est ça.
Alors après, si elle aime ça, visiblement, elle aime bien l'économie réelle et les PME innovantes, ce qui est une bonne chose pour notre économie, elle peut décider d'investir. Si elle a un peu plus que 1 000 euros à investir, elle peut prendre 2 FCPI cette année. Elle varie les stratégies. Je vous disais tout à l'heure, Euraseo, c'est plus risqué, oui, parce que c'est du capital risque. Isatis, eux, c'est du capital développement.
C'est pas le même risque sous-jacent
d'entreprise. Les entreprises en dessous sont pas au même stade. C'est plus risqué quand les entreprises sont plus jeunes.
Donc c'est du risque, voilà, c'est des jeunes pousses.
Donc elle peut faire ça.
Dit.
Et puis elle peut aussi décider, si elle trouve cet investissement intéressant, de le faire chaque année. Comme ça, c'est pas mal parce que on dit toujours que le capital, que le private equity est décorrélé des marchés financiers, ce qui est vrai, mais c'est pas décorrélé de la situation économique. Donc si on en prend chaque année, c'est pas mal. Ça permet de mutualiser le risque et au final, voilà.
Voilà donc, Gwendoline, quelques idées à avoir sur ces FCPI, donc fonds communs de placement dans l'innovation. Question d'Eugénie, veuve, sans enfant, elle a une filleule, elle nous précise que c'est la fille d'une amie, et elle aimerait léguer son patrimoine à cette filleule, et on lui dit que c'est intéressant, que c'est plus intéressant pour cette filleule si elle fait d'abord un leg à une fondation qui aura la charge de reverser une partie à cette fameuse filleule. Et elle trouve que c'est pas très clair.
C'est vrai
qu'on lui explique.
C'est vrai. C'est un dispositif très très audacieux pour les gens qui veulent donner une partie.
Très audacieux, c'est risqué ou
ah pas du tout.
Ah d'accord.
Ah non, c'est audacieux. Non, c'est pas du tout risqué. Aucun risque. C'est très intéressant fiscalement. Voilà. Pardon. C'est audacieux fiscalement. C'est très intéressant fiscalement.
Non mais quand je disais risque, il n'y a pas de risque de requalification.
Aucun risque.
D'accord.
Aucun risque.
C'est bordé.
C'est parfaitement bordé. Comment ça fonctionne ? Là, cette veuve, imaginons qu'elle est... Donc, cette filleule, elle n'est pas de sa famille, puisque c'est la fille d'une amie. Donc, si elle lui donnait 2 millions d'euros, par exemple, cette filleule paierait... Elle aurait un petit abattement inférieur à 1 500 euros. Et sur le reste, elle paierait 60% de droits. Ça veut dire que cette filleule, on lui donne... Madame lui donne 2 millions d'euros. Il reste dans la poche de la fillette, net d'impôts. Il lui reste 800 000 euros. 1,2 million d'euros donnés en droits de succès. C'est un peu fâcheux. Une solution beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Madame décide de donner, alors ça s'appelle un lex avec charge net de droits et de frais. Pour faire ça, il faut aller chez le notaire, écrire ça dans son testament. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire, je lègue, on fait un leg universel à cette fondation. On dit, je donne tout mon patrimoine à une fondation reconnue d'utilité publique, à charge pour elle, de répartir mon patrimoine comme suit. Donc elle garde pour ses œuvres, la fondation, une partie. Et cette autre partie, donc on disait sur les 2 millions, la filleule récupérait 800 000 euros net. Bah tiens, je vais lui donner 800 000 euros. On dit, bah vous allez donner 800 000 euros, vous, fondation, à cette filleule. Qu'est-ce qui se passe ? La dame donne tout son patrimoine à la fondation. Une fondation, ça ne paye pas de droit de succession. Donc elle engrange ses 200 000, ses 2 millions. Sur tout le patrimoine, on va dire. Voilà. Ensuite, elle donne 800 000 à la fille, mais en plus, comme on a précisé que c'était net de droits et de frais, c'est la fondation et pas la filleule qui va payer les droits de succession. Donc c'est bien, ça permet de donner une somme nette. Et puis, ces impôts, bah, ils servent à une fondation d'utilité publique, c'est une extrêmement bonne idée quand vous n'avez pas d'enfants, pas d'héritier réservataire et que vous voulez gratifier quelqu'un qui vous est cher, mais qui est un étranger, qui n'est pas de votre famille. Quoi.
Bon, elle peut lui filer aussi un peu d'assurance vie et puis peut-être un peu de tontine.
Oui, bien sûr.
Qui permettrait aussi
de passer. Mais l'assurance vie, vous voyez, c'est limité à 152 500. Elle peut faire ça. Tontine, c'est bien, mais... oui, c'est bien, mais...
C'est méconnu. Allez, il nous reste 1 minute 45 pour répondre à Yann. J'ai gardé mon contrat de retraite Madelin parce que j'ai un bon taux garanti. Et il se demande, il se demande, Yvan, à quelles conditions il pourrait sortir quand même en capital.
Oui, alors le contrat Madelin, c'est l'ancien contrat de retraite pour les indépendants. Maintenant, c'est un PER comme les autres. Ce contrat Madelin-là, il sort en capital. On ne peut pas sortir... Donc, si la personne a gardé ce contrat-là, parce qu'elle a un bon taux, bah, au final, elle aura une rente. Elle n'a pas le choix. Bon. Maintenant, il y a des cas où on peut, malgré tout, sur ce contrat Madelin, sortir en capital. C'est quoi ces cas ? Bah, c'est si la rente, elle est trop faible. Quand la rente est inférieure à 100 euros par mois, si vous voulez, ça oblige l'assureur pour 100 euros, toute une mécanique, on dit, allez hop, on vous file un capital, et voilà. Et donc, c'est vraiment, la loi dit, si la rente est inférieure à 100 euros par mois. Donc 100 euros par mois, qu'est-ce que ça fait de capital constitutif ? On va dire, si vous avez 35 000 euros sur votre Madelin, ça marche. Au-delà, c'est limite, il faut calculer, bien sûr. Et donc là, vous pouvez à ce moment-là recevoir un capital, et en plus, ce capital, il sera bien moins taxé que dans les autres cas. Donc c'est vraiment tout bénéfice. Si vous l'avez, s'il a un bon taux, bah gardez-le.
Vous pourrez
sortir en capital. Et pour les versements futurs, si vous avez encore envie d'épargner pour votre retraite, bah au lieu d'épargner sur ce contrat-là, vous ouvrez un nouveau PER beaucoup plus moderne.
Donc voilà. Attention à la barre des 35 000 en gros. Yvan, merci beaucoup d'être passé nous voir, Mireille, et d'avoir répondu avec enthousiasme aux questions de nos auditeurs. Dans un instant, c'est 60 minutes business et Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Au menu de ce midi.
Alors, nous allons parler de David Layani, le patron de Winepoint, dont l'offre de reprise des activités cybersécurité d'Atos a été rejetée. Eh bien, il n'abandonne pas la partie. On en parlera avec Mathieu Pechberti. C'est en ce moment le mondial du bâtiment. En pleine crise énergétique, le secteur se repense et pense notamment à la filière bois. Mais où en est-elle ? Alexandra Paget nous le dira dans le focus. Et puis nous ferons un point sur l'industrie hôtelière qui va très très bien. Les chiffres sont presque ceux de 2019. Nous en parlerons avec Stéphane Botz d'Hospitality KPMG. Puis évidemment, à 12h30, on répondra à toutes les questions que vous nous avez posées avec Lorraine Goumeau.
Merci Sandra, ça ira mieux avec le micro. C'est 60 minutes business dans un instant. Dans l'intervalle, le CAC continue à pousser. On progresse de 3,18% maintenant, 5 978 points. Et nous, on se retrouve demain matin à 10h. Très bonne journée.